L'hôpital, l'école, la police, la justice, il n'est pas un grand service public où ne s'exprime un malaise en ce début d'année 2022. L'impression ou le constat d'un décalage entre les missions attribuées aux agents et les moyens qui leur sont accordés. Dans le domaine de la justice, des états généraux sont en cours. Ils se tiennent alors qu'une tribune lancée par de jeunes magistrats détaillant les manifestations de cette crise a été signée par une immense majorité de la profession, 7000 magistrats et greffiers. Il y a 9000 magistrats en France. Le gouvernement fait valoir que le budget de la justice a bénéficié de hausses de crédit jamais vues, 2 années de suite, plus 8%. « J'ai réparé l'urgence », répète le ministre de la Justice. Hier, le procureur général près la Cour de cassation, François Molins, l'un des plus hauts magistrats de France, l'un des rares clairement identifiés par le grand public depuis l'époque où il rendait compte régulièrement de l'avancée des enquêtes après les attentats, a fait une nouvelle fois ce constat d'une crise lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos questions au procureur général près la Cour de cassation. Bonjour François Molins.
Bonjour Bruno Duvic.
Vous avez eu hier des mots particulièrement forts, monsieur Molins. Il est question d'une crise que nul ne peut nier, qui entraîne souffrance et perte de sens, des conditions de travail intenables.
Écoutez, j'ai voulu tenir un discours de vérité. Nous avions, avec le Conseil supérieur de la magistrature, reçu les 9 signataires de cette tribune, les 9 signataires premiers historiques. Hein. Moi, j'ai moi-même des contacts avec des jeunes magistrats assez régulièrement. Et on avait entendu des choses particulièrement fortes dans lesquelles, effectivement, il y a deux mots qui revenaient souvent. C'était les mots « honte », honte des conditions de travail, et souffrance. Et ces jeunes nous ont expliqué en réalité que c'était une souffrance particulière, c'est peut-être pas la souffrance au travail telle qu'on l'entend habituellement, c'est une souffrance d'ordre éthique qui est causée au quotidien dans leur esprit par le décalage qui existe entre la noblesse de leur mission et la précarité des conditions dans lesquelles ils l'exercent.
Vous avez des exemples précis de ce que vous ont pu dire ces signataires ou de ce que vous constatez, vous?
Écoutez, je pense que je vais prendre dans un domaine qui m'est pas le plus familier, mais le domaine civil, par exemple. Quand vous avez devant des juges d'affaires familiales un temps d'explication de 5 minutes qui est donné au conseil pour s'expliquer, c'est peut-être pas beaucoup, effectivement, en termes d'humanisation de la justice pour statuer sur un cas. Quand vous avez des dizaines et dizaines de dossiers qui doivent être suivis à la même audience par un juge de la maison de l'État, c'est pas non plus forcément optimal. Donc je pense qu'en réalité, il y a un climat qui fait que le système n'a tenu très longtemps que grâce au dévouement sans limite des magistrats et des fonctionnaires, des greffiers notamment. Et c'est cela effectivement qu'on a voulu dénoncer, même s'il n'est pas question de nier le chemin qui a été fait depuis le début de ce quinquennat. Hein, je rappelle, plus 22% de crédits supplémentaires votés en loi de finances initiale pour le programme justice judiciaire, 850 greffiers, 850 magistrats, 650 magistrats, 850 greffiers.
2000 contractuels
et non pas 1000, comme je l'ai dit hier au cours de mon discours, mais c'est une erreur que j'assume et qui a été corrigée immédiatement sur le discours qui a été mis en ligne et qui, de toute façon, ne règle pas le fond du sujet. Moi, je rappelle que ces efforts, ils sont réels, ils sont reconnus, ils sont quand même récents. Je rappelle qu'en 2016, le garde des Sceaux de l'époque, en arrivant, M. Hervoas, avait stigmatisé l'état de clochardisation de la justice. Ouais. Donc ces efforts, ils sont réels. Simplement, il faut les continuer. Et si on veut qu'ils atteignent leurs résultats, il faut que la justice soit en état de régler les problèmes structurels qu'elle connaît depuis 25 ans. Problèmes structurels qui sont effectivement, qui renvoient à cette question que je posais hier. Il suffit pas pour l'État et pour Bercy de donner des moyens. Il faut aussi qu'on soit en mesure de justifier que ces moyens soient correctement répartis et utilisés. Et ça, ça renvoie en réalité à la nécessité de corriger ces problèmes structurels qu'on a depuis des années, dont on pourra parler tout à l'heure si vous voulez.
Allons-y tout de suite, parce que ce que vous nous dites, c'est que ça n'est pas qu'une question de moyens.
C'est une question de moyens et d'organisation. Oui. L'institution doit se réorganiser, notamment au plan des différents échelons de gestion sur la carte judiciaire des cours d'appel. Elle doit se réorganiser. Je pense qu'on doit être une des seules administrations de l'État qui n'est pas capable de quantifier les besoins, les effectifs dont elle a besoin.
C'est ça. Éric Dupond-Moretti disait sur notre antenne mi-décembre qu'il a commandé un outil pour se rendre compte du manque de magistrats. Cet outil, dit-il, il faut 3 ans pour le mettre en place, qui semble incroyable.
J'étais directeur de cabinet du garde des Sceaux. En 2010, j'étais le premier, avec le cabinet que je dirigeais, à lancer le premier groupe de travail sur l'évaluation de la charge de travail du magistrat. Ça fait 12 ans qu'il y a des groupes de travail au sein de la chancellerie.
Et comment ça se fait que ça n'avance pas ?
Ben, j'en sais rien. Mais il faut que ça avance, encore une fois, parce que c'est ça qui suscitera la véritable confiance de l'État et qui fera qu'on aura effectivement l'ensemble des centaines et des centaines de postes de magistrats et de greffiers dont on a véritablement besoin pour avoir une justice qui soit humaine, humanisée, et qui surtout se traduise par des décisions rendues dans des délais raisonnables, parce que c'est ça qu'attendent les gens.
Alors, les comptes rendus de votre discours font état d'une colère, disons, du ministre de la Justice, qui a parlé de discours scandaleux, en faisant valoir les chiffres que vous venez vous-même, François Molins, de citer. Ça amène cette question de Maurice. Je suis ancien avocat. Je voudrais savoir pourquoi la justice, qui a eu une attitude de soumission à l'égard de l'exécutif, maintenant qu'il y a Macron, elle vient protester. Qui pose la question de la politisation au fond de ce mouvement.
Il n'y a aucune politisation dans tout ça. Moi, je dirais d'abord que je n'ai pas commenté les propos du garde des Sceaux après l'audience. C'est pas mon rôle. Je suis loyaliste et respectueux des institutions. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Ce que je voudrais dire simplement, que c'est pas la première fois qu'un procureur général à la Cour de cassation tient un discours de vérité au cours des audiences de rentrée. Je suis pas le premier.
Là, il y avait un ton un peu plus fort.
J'ai dit les choses avec ma personnalité et mon tempérament, sans faux fuyant. Par contre, effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a un discours de vérité, c'est par contre assez inédit qu'un garde des Sceaux tienne ses propos et réagisse ainsi avant même d'avoir quitté les murs de la Cour de cassation. Moi, encore une fois, j'ai dit, je pense, ce qu'il fallait dire et qui correspond en réalité au constat objectif qui est porté sur l'institution et qu'il est notamment porté par la juridiction qui est chargée de surveiller la bonne utilisation des comptes publics, qui est la Cour des comptes. Reprenez les rapports de la Cour des comptes. Depuis 5-6 ans, ils mettent en évidence effectivement la nécessité pour l'institution de réformer et d'arranger ces difficultés structurelles qu'elle connaît, que j'ai rappelées tout à l'heure, carte judiciaire, évaluation de la charge de travail et surtout mise à niveau du numérique et de l'informatique. On sera obligé d'en passer par là.
Si vous deviez attendre une décision des états généraux de la justice, ce serait laquelle, François Molins ?
Je pense qu'il n'y en aura pas qu'une, parce que les problèmes sont tels qu'il y a de nombreux groupes de travail qui réfléchissent et travaillent sur la justice civile, la justice pénale, la prison, la protection, les statuts, les organisations, donc tout ça est extrêmement compliqué. Ce que je disais hier, c'est que de toute façon, quelles que soient les idées que pourra définir et que pourra dégager le comité des états généraux de la justice, auquel j'appartiens, dont il faut espérer effectivement qu'il y ait des propositions intéressantes et que ça aille dans le bon sens, ça renverra toujours et nécessairement à la responsabilité du politique. C'est lui qui aura à décider ce qu'il prend et dans quelle direction il veut aller.
Question de Jean-Philippe au Standard pour vous, François Molins. Bonjour Jean-Philippe.
Oui, bonjour Monsieur Lévic, bonjour Monsieur Molins.
Bonjour.
Moi je suis époux d'un magistrat. Oui. Alors, en fait, je voulais parler aussi d'un problème de souffrance, mais en externe cette fois, c'est-à-dire le peu d'appétence et de formation des magistrats à faire savoir ce qu'ils font réellement, notamment au civil. Et Monsieur Moins, par la force des choses, en fait, a été amené à beaucoup communiquer, à très bien communiquer. Et je voulais savoir s'il pouvait réfléchir avec Madame Arens, qui est une autre voix qui porte énormément dans la justice, à une façon peut-être pour les magistrats d'être un peu plus entendu, communicant, et notamment quand ils sont publiquement attaqués un peu partout, de façon de faire savoir un peu vraiment, et qu'ils ne soient pas toujours obligés de se dire « Non, la réserve me retient et je laisserai dire sans rien faire », parce que ils l'accumulent, cette souffrance en interne, et ça finit par être très très dur.
Voilà. François Molins vous répond. Merci Jean-Philippe pour cette question.
Oui, ben écoutez, on a réfléchi à ce que vous dites, monsieur, avec Madame Arens, à plusieurs reprises. Je vous ferai deux types de réponses. La première, c'est que je crois que quand un magistrat est attaqué injustement, c'est le devoir de son chef de juridiction d'intervenir publiquement pour le défendre. Et la deuxième, qui est aussi dans votre question, c'est que je pense effectivement que les magistrats font des tas de choses magnifiques, très positives, mais on ne sait pas suffisamment le faire savoir. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Conseil supérieur de la magistrature, dans l'avis qu'on a rendu au président de la République le 15 septembre dernier, on a émis l'idée que puisse être désigné dans chaque juridiction un porte-parole qui puisse à la fois expliquer les décisions, mais aussi valoriser l'ensemble des modes de travail et des politiques juridictionnelles qui sont menées effectivement dans chaque tribunal. Et ça, je pense que ça serait très positif.
Dans votre discours également hier, François Molins, la question de l'indépendance du parquet. Comment avancer sur cette question, que les nominations de procureurs soient soumises à un avis conforme et non consultative du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la grande piste.
Oui, mais là aussi, moi j'ai voulu indiquer effectivement qu'on est dans une logique dans laquelle depuis le début des années 2000, on accroît considérablement, et je pense que c'est bien, les pouvoirs du parquet, et qu'on arrive à un point tel que l'évolution logique des choses doit être de consolider et de renforcer leur garantie statutaire de nomination, et non pas de dégrader ce statut en faisant quelque chose qui s'assimilerait à un fonctionnaire, comme dans certains pays, et auquel la protection des libertés individuelles ne gagnerait pas. Donc la logique, effectivement, c'est de sanctuariser tout ça, de le consolider, pour effectivement mettre fin à toute polémique sur la suspicion qui peut entourer certaines nominations. Et j'ai qualifié ça hier d'arlésienne de la Ve République.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Effectivement, on en parle depuis 25 ans, mais elle n'est pas là, cette réforme. Donc un beau jour, il faudra qu'elle arrive pour venir effectivement apporter effectivement les garanties qui sont nécessaires à un exercice, on va dire, serein et équilibré de ses fonctions.
Dans le débat public ces dernières semaines, deux sujets qui posent des questions générales de droit. Plusieurs candidats à la présidentielle, dans la foulée d'un débat ouvert en Pologne, contestent la primauté du droit européen sur le droit national. Article 55 de notre Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois. Donc plusieurs candidats appellent à modifier cette règle. Ce serait un bouleversement profond de notre système juridique.
Je pense qu'on ne peut pas rentrer dans ce genre de discours, qu'au contraire, il faut le combattre, parce qu'il est, à mon sens, dangereux. L'état de droit, c'est pas simplement, c'est ce que dit souvent le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, c'est pas l'état du droit. C'est effectivement un ensemble de systèmes de valeurs qui transcendent tout ça, et qui aujourd'hui est un système fondé sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Et je pense pas que ce soit en faisant, attaquer et contester la valeur effectivement des décisions prises par Bruxelles. Je rappelle aujourd'hui que l'Europe fonctionne sur la base de délégations qui lui ont été consenties. C'est pas un État fédéral. Hein. Chaque pays a consenti des transferts de compétences à l'Union, et c'est sur la base de ces compétences consenties que l'Union aujourd'hui détermine un certain nombre de choses. Donc effectivement, il faut effectivement savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut que soit l'Europe de demain? Je pense que, vraisemblablement, ce sera un des thèmes forts de la présidence française pour les 6 mois qui viennent de s'ouvrir.
L'automne a été marqué par une nouvelle affaire d'agression sexuelle très médiatisée et la justice remise en cause de deux manières. D'abord sur la prise en charge de celle qui se présente comme victime, délai de prise en charge, classement des dossiers, et puis la question de la prescription sur laquelle on reviendra après. Comment améliorer la prise en charge?
Je pense que la prise en charge, ça ne peut pas se régler effectivement par des normes et des textes législatifs ou réglementaires. C'est un combat permanent. Je pense que on n'aura jamais la perfection, mais il faut l'atteindre en permanence, en ayant le souci constant de faire des retours d'expérience sur ce qu'on fait, de corriger. Je parlais toujours à l'époque de chasse aux angles morts. C'est un exercice permanent pour améliorer en permanence les dispositifs. Et je pense que c'est quelque chose c'est une culture qui doit se propager à tout. C'est une véritable culture de la victime. Et en tout cas, culture de la prise en charge. Ouais. Qui doit véritablement irriguer l'ensemble des services de police, de gendarmerie et de justice. Donc c'est vraiment un travail de petits pas. Et je pense un travail au long terme si on veut vraiment arriver à des situations satisfaisantes pour les victimes.
Sur le sens de la prescription, au fond, c'est une question quasiment de première année de droit. On voit bien dans ces affaires qu'on bute contre cette prescription et que les victimes se disent il y a une injustice. Est-ce que vous pouvez tout simplement rappeler le sens de la prescription? Pourquoi, au-delà d'un certain délai, la justice ne peut pas traiter une affaire?
Parce que derrière la prescription, il y a le droit à l'oubli qui fait qu'on a beau avoir fait des grosses erreurs ou commis des infractions, au bout d'un certain temps, la société a plutôt intérêt à passer l'éponge, entre guillemets, et à faire en sorte que la personne qui a fait une faute se réinsère dans la société, plutôt qu'à vouloir remettre, effectivement, toujours sur l'ouvrage, des choses qui sont extrêmement anciennes. Donc il y a effectivement un équilibre à trouver entre les nécessités de la répression et la gravité de certains crimes, étant entendu que, passé un certain temps, il devient extrêmement difficile de juger.
Et on se retrouve, ce sera ma dernière question, dans une situation où, au fond, ces affaires sont plus susceptibles de poursuites au plan judiciaire, mais continuent de vivre dans la presse à travers des témoignages, des tribunes, des enquêtes. Qu'est-ce que vous dites ? Chacun est dans son rôle ou on frise le tribunal médiatique ?
Mais là encore, je pense que on frise le tribunal médiatique si on ne prend pas au niveau des médias un certain nombre de précautions dans la façon de présenter les dossiers pour essayer de sauvegarder la présomption d'innocence. Parce qu'effectivement, la présentation de certaines situations dans les médias peut contribuer à susciter un sentiment de culpabilité de la personne, alors qu'en réalité, parfois, elle n'a même pas eu l'occasion de se défendre. Et ça, je pense qu'il faut lutter contre cet écueil. Le vrai tribunal, c'est le tribunal judiciaire, dans le respect des règles du procès équitable.
Merci François Molins d'être venu dans le studio de France Inter. Bonne journée à vous.